C'est un podcast Vivre FM.
Et on retrouve notre invitée Sophie Brugeil, auteure d'une histoire de gêne chez Flammarion. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Dans cette histoire, dans ce livre, vous racontez votre histoire, c'est-à-dire la découverte de votre statut illégitime. Et ça part, c'est anecdotique, c'est vous offrez un cadeau à votre fils.
Bah, c'est une histoire un petit peu folle parce que de mon côté, j'aurais jamais eu l'idée d'acheter un test, un kit de test ADN. J'avais aucune envie de ça et ni même de l'offrir à mon fils. C'est lui qui m'a demandé pour son anniversaire un kit de test ADN. J'ai trouvé que c'était une curiosité. Mais il m'a expliqué qu'ils étaient en train d'étudier la génétique au collège à cette époque-là, que plein de ses copains l'avaient fait, que c'était rigolo. Et il a réussi à me convaincre. Je me suis dit, bon, c'est pas non plus... c'est pas chez nous qu'on va découvrir quoi que ce soit.
Nos familles,
nos familles sont très, très carrées.
C'est ce qu'on pense tous, en fait.
C'est ce qu'on pense tous. On n'imagine pas du tout. Et quand il a reçu son test un mois plus tard, les résultats du test, on a d'abord vu les pourcentages ethniques. C'est ce pourquoi tout le monde fait ses tests, pour avoir un petit peu... pour connaître un peu les origines de la famille. Et il y a un petit onglet dont on ne connaissait pas l'existence, qui s'appelle correspondance ADN. Et c'est un onglet sur lequel on retrouve la liste de tous les gens qui ont fait le même test que vous et qui ont de l'ADN commun avec vous.
Oui, mais ça pourrait être dangereux. Alors, pas dans votre cas, mais ça pourrait être dangereux de trouver des correspondances. Ça peut amener à vraiment des développements importants, des développements qu'on ne maîtrise pas du tout.
À ce moment-là de mon histoire, je ne me pose pas du tout ces questions-là. On découvre cette liste avec étonnement, parce qu'effectivement, quand on fait ces tests, on s'expose à livrer son ADN à une base de données, effectivement. Bon, après, moi, je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, parce que ce n'est pas le sujet. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question éthique, sur la protection des données. Moi, ce n'était pas ce qui me posait le plus de problèmes. À ce moment-là, en fait, je n'avais jamais réfléchi à tout ça. Voilà. Et dans cette liste de correspondance ADN, il y avait beaucoup de noms de cousins qu'on a retrouvés. Tout à fait. On s'est même fait la réflexion, tiens, beaucoup de gens de la famille ont fait ce test. Et un nom qui m'a fait tilt, qui correspondait à rien de la famille, mais qui, moi, m'a parlé.
Oui, oui. Et alors, lors d'une conversation avec vos parents, avec votre mère notamment, et votre père est derrière le téléphone, vous dites, mais tiens, maman, il y a ce nom, lui, on le connaît, ce monsieur.
Voilà, donc là, il y a eu une sorte de blanc au téléphone, parce qu'effectivement, j'ai sauté à pieds joints dans un secret de famille sans vraiment le savoir. C'était pas encore conscient à ce moment-là. Et donc, c'était par téléphone, effectivement. Et je raccroche avec mes parents en ayant une sensation bizarre d'avoir mis le doigt sur quelque chose. Et en même temps, je suis complètement dans le déni parce que c'est tellement énorme que ça rentre pas dans ma tête.
Oui, oui. Et pourtant, en y repensant après, votre groupe sanguin ne correspond pas avec celui de votre père. Il y a des choses comme ça.
Oui, tout ça, j'en ai pris conscience bien après, quand ma mère... en fait, j'ai pris conscience de ce qui m'arrivait 3 mois plus tard, quand ma mère a fini par me raconter son histoire. Et me livrait la vérité sur ma naissance. Mais il y a d'abord eu 3 mois de déni pendant lesquels elle-même devait être assez affolée par tout ça, parce que quand on garde un secret aussi longtemps, c'est compliqué de vivre avec et de pouvoir en parler, surtout après autant d'années. Et moi, il a fallu que je l'entende de sa bouche pour avoir la confirmation, parce que jusque-là, je me disais non, c'est peut-être un hasard, parce que le nom correspondait, mais pas le prénom. En fait, c'était un petit neveu de mon frère biologique, de mon père biologique, pardon, qui avait fait ce test et qui avait de l'ADN commun avec mon fils.
Oui.
Et puis ma première volonté, ça a été de déculpabiliser mon fils, qui avait 14 ans à l'époque. Pour qu'il ne culpabilise surtout pas d'avoir fait ce test, parce que pour moi, ça a été une libération. Et aujourd'hui, je lui dis merci. Je regrette même de ne pas l'avoir su avant.
Oui, c'est vrai. Alors, on va en parler justement, mais je voulais qu'on revienne sur le déroulement. Votre mère, au bout de 3 mois, vous donne rendez-vous pour vous l'annoncer. Alors, j'imagine que vous vous en doutez à ce moment-là. Mais il y a eu d'autres tests avant cela, des tests qui vous ont surpris. Et là, vous avez découvert.
Oui, c'est-à-dire qu'entre les résultats de mon fils et le moment où ma mère m'a livré son histoire, je suis donc dans un déni, comme je l'ai expliqué. Et pour Noël... je décide d'offrir des tests ADN à tout le monde. C'est un peu comme si ce n'était pas moi. Je me suis vue faire ça, comme si j'étais au-dessus de moi-même. Je me suis vue acheter des kits de tests ADN et les mettre sous le sapin, bien emballés. Ce qui a donné un Noël surréaliste où les gens ouvraient leur paquet et trouvaient un kit de test ADN en se demandant.
C'est un cadeau qui fait plaisir, en principe ?
Je ne sais pas du tout. Je ne me suis même pas posé la question. C'est quelque chose qui s'est fait en dehors de moi. J'ai offert ça à tout le monde. Je ne sais pas quel était le message, si c'était... je ne sais pas du tout. Voilà, donc il y avait des kits d'ADN, de tests ADN sous le sapin. Tout le monde s'est passé son petit écouvillon dans la joue pour faire son test. J'ai fait un Noël un peu spécial.
Oui.
Voilà.
Et donc vous-même, vous en aviez fait un pour
oui,
vous.
Oui, j'en ai fait un aussi. Voilà, je pense que j'avais envie de provoquer un peu les choses et de... Mais c'était très inconscient de ma part.
Vous étiez dans le déni, ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Ouais, voilà. Et les résultats sont arrivés. Enfin, mon test à moi s'est perdu d'abord, donc il n'est pas arrivé tout de suite. Et les résultats de mon père sont arrivés dans la boîte mail de mon fils, puisque c'est lui qui avait drivé un petit peu tout ça. Et là, effectivement, pas d'ADN commun entre mon père et mon fils. Donc, c'était une preuve, mais je ne la vois pas encore à ce moment-là. Je suis encore dans le déni.
Vous vous dites que c'est peut-être une erreur
Je ne sais pas. Tant que ma mère ne me l'a pas dit, je n'y crois pas.
Oui.
Voilà. Donc, oui. Donc il se passe encore un mois et demi avant que ma mère finisse par trouver la force de me le dire. Parce que j'imagine, enfin, c'est pas j'imagine, c'est j'en suis certaine, c'est très, très compliqué à faire. Et je ne lui en veux pas. Je ne juge absolument pas ma mère, ni sur son histoire, ni sur le fait qu'elle ait tant tardé à m'en parler, parce que je sais que ce n'est pas facile. C'est un peu la double peine. En fait, quand on met le doigt dans le secret, c'est très, très dur d'en sortir. Et c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'au départ, je pense, quand on rentre dans ce genre de secret, on pense que ça va nous sauver, mais ça détruit beaucoup de gens.
Oui.
Ça ne protège personne, en fait.
Oui, mais vos parents auraient peut-être divorcé si votre père l'avait su tout de suite.
Peut-être, mais est-ce grave est-ce plus grave que ce qui se passe après?
Oui.
Puisque finalement, mon père et moi avons été victimes de ce mensonge. Peut-être qu'on n'aurait pas eu la vie qu'on a eue. Peut-être que mon père aurait eu des enfants par ailleurs.
Vous êtes fille unique.
Ouais. Peut-être que moi, je n'aurais pas vécu dans l'angoisse sans savoir pourquoi j'étais angoissée. Parce qu'un secret, il transpire toujours. On pense qu'on peut cacher... Après, les secrets de famille, il y en a plein de sortes. Là, on parle du secret sur les origines, puisqu'on parle de mon histoire. Mais le secret de famille, en général, quel qu'il soit, infuse. On le sait toujours, quelque part. Quand on nous ment, on le sait toujours au fond de soi, dans son corps. Et ça ressort toujours d'une manière ou d'une autre.
Oui.
C'est beaucoup de souffrance.
Oui, oui. Alors ce secret, votre mère vous révèle tout 3 mois après, et puis elle vous dit, mais au fond, ça ne change rien.
Oui, c'est sa première réaction, je pense, aussi pour se protéger encore une fois. Elle me dit, mais de toute manière, pour toi, qu'est-ce que ça change? Et cette question, elle a beaucoup tourné dans ma tête parce que, effectivement, ça ne change rien. Mon père, c'est celui qui m'a élevée, qui m'a éduquée, qui m'a aimée, parce que c'est la définition première d'un père. Un père, c'est celui qui aime et qui éduque et qui est là. Et à la fois, ça change tout parce que d'un seul coup, on découvre que 50% de soi n'est pas ce qu'on pensait.
Oui.
On s'est construit sur du sable. Et puis, il y a plein de ramifications. Le secret, ce n'est pas juste cette révélation-là. C'est aussi quand on fait des examens de santé, par exemple, on se dit, mais alors, depuis le temps, moi, je donne des infos sur ma santé qui sont complètement fausses.
Oui, vous racontez que vous faisiez un examen annuel compte tenu de l'hérédité paternelle. Et en fait, ça n'avait pas de sens.
Toutes mes tantes paternelles avaient eu des cancers. Donc, on me demandait de faire des examens en ce sens tous les ans. Puis, d'un seul coup, je réalise que... pas fait ça pour rien, mais en fait, mes tantes n'étaient pas tout à fait mes tantes. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça ne change pas rien. Et ça change aussi la façon dont on se perçoit, parce que d'un seul coup, moi qui suis fille unique, j'ai découvert que j'avais des frères et sœurs, enfin des demi-frères et sœurs. C'est pas rien en fait, c'est pas anodin, on peut pas dire que ça ne change rien. On se rend compte qu'il y a une partie de soi qui nous a échappé toutes ces années et que peut-être tous ces moments où on a été mal sans savoir pourquoi, ça venait de là. Et puis c'est une évidence pour moi aujourd'hui, puisque du jour où j'ai appris la vérité, toutes les angoisses que j'ai pu avoir ont disparu.
Des angoisses que vous aviez depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis toujours ?
Toujours, depuis l'adolescence.
C'est incroyable.
Ouais, j'ai été claustrophobe, j'avais des crises de panique, pas tout le temps, hein, pas en perfusion 24 heures sur 24, mais j'ai eu plein de périodes compliquées sans savoir parce que j'avais pas une vie malheureuse, j'avais aucune raison d'être mal. Et pourtant, j'avais ce truc au fond de moi. Et j'avais une sensation par rapport à ma naissance. Ça, c'est marrant aussi. C'est que j'ai jamais douté de mon père. Enfin, je me suis jamais posé la question, est-ce que mon père est mon père? C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai jamais eu envie de faire ces tests ADN. En revanche, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de pas clair autour de ma naissance. Quand je posais la question, pourquoi je suis fille unique? on me répondait des choses tout à fait... parce que quand on réussit un chef-d'œuvre, on n'en fait pas deux, ok. Et pourquoi je suis née si tard? Parce qu'avant de pondre, l'oiseau fait son nid. Enfin, des phrases toutes faites qui pour moi, étaient l'expression d'autre chose.
Oui.
Voilà, j'y ai jamais cru à ces jolies phrases.
Oui, oui. Et ces choses bizarres, elles venaient de votre mère?
Non, les deux. Moi, je pensais qu'il me cachait quelque chose, peut-être, je sais pas, j'imaginais qu'il y avait peut-être un jumeau, une jumelle mort in utero, ou qu'il y avait eu des fausses couches avant moi, ou la mort d'un autre enfant. Enfin, j'ai imaginé des tas de trucs,
oui.
Mais pas que mon père n'était pas mon père biologique.
Oui. Et ça a été un choc. On va continuer d'en parler avec vous, Sophie Brugeil. Une histoire de gêne chez Flammarion. Vous racontez tout, vous racontez tout ce qui s'est produit et tout ce que ça a changé pour vous. On va continuer à le voir dans un instant.
Vivre FM. La radio de toutes les différences. Voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'ego et quelques langues à défaire. Pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre. Voir si la lune est claire. De quelques têtes hors de l'eau. Un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier. Un peu laissé sur le dos. Un peu blessé par les pierres. Qu'on n'a pas voulu perdre. Nous, nous. Nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre.
Nous, Julien Doré, à l'instant sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Sophie Brugeil est notre invitée. Elle publie une histoire de gêne chez Flammarion. Elle raconte son histoire, l'histoire d'un test fait par hasard hein, pour son fils qui demande un test génétique. On l'envoie aux États-Unis et puis il en ressort que votre père génétique, votre géniteur, Sophie, n'est pas l'homme qui vous a élevé et officiellement l'homme qui est officiellement votre père. Alors vous le découvrez, votre mère vous l'avoue, elle vous explique, eh ben non, c'est c'est effectivement votre géniteur n'est pas votre père, et puis l'homme qui vous a élevé, votre père, lui, n'est pas au courant. Alors votre mère n'est pas prête à lui annoncer, évidemment, puisqu'elle a caché cette vérité toute sa vie.
C'est ça, c'est exactement ça. Et quand elle me révèle la vérité, je perçois la détresse dans son regard, parce que voilà, avoir un secret pendant de si longues années, c'est plein de mécanismes de défense, c'est plein de... Enfin voilà, j'ai senti qu'elle était vraiment très 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 déstabilisée, ce que je comprends. Et c'est moi qui ai pris la décision, j'ai mis un an à me décider, est-ce que je devais le dire à mon père ou pas. J'avais deux petites voix contraires qui ont cohabité pendant des mois, pendant un an. Une voix qui me disait « il est âgé, ne va pas bousculer les dernières années de sa vie ». Et une autre voix qui me disait « bah oui, mais on n'a jamais eu des rapports vraiment, vraiment proches, vraiment forts, on ne s'est jamais rien dit de vrai. Peut-être que c'est l'occasion de se dire de belles choses, quoi, de profiter de ces dernières années justement pour se dire de vraies choses ». Et c'est grâce à mon fils, encore une fois, que j'ai pu prendre cette décision qui était très difficile. Donc mon fils, celui qui a fait le test, il m'a dit, moi je veux bien ne rien dire, ne pas dire à papy la vérité, mais si un jour il me demande les résultats de son test, si un jour il me pose la question, je ne lui mentirai pas. Et là, ça a été un détonateur, parce que je me suis dit, c'est lui qui a raison. Il est hors de question que ce mensonge se transmette de génération en génération. Je ne peux pas faire porter ça à mes fils. On n'a pas le droit de faire porter ce genre de mensonge à ses enfants. Moi, je l'ai porté pendant un an à me dire qu'est-ce que je fais. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de le dire à mon père, de prendre ce risque-là, de lui faire de la peine. Je savais que ça allait être une grosse douleur, mais je savais aussi que ce serait l'occasion de se parler. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Et il n'en ressort que de belles choses, en fait.
Donc, vous lui annoncez, il ne s'y attendait pas ?
Non, je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il n'avait pas un petit doute. Je pense que comme moi, le secret devait suinter quelque part au fond de lui depuis toutes ces années et qu'il s'était persuadé du contraire pour pouvoir accepter ce doute. Là, j'ai mis des mots dessus, donc je pense qu'à la fois, il est tombé des nues et à la fois, j'ai recollé un morceau quelque part. Je pense qu'il l'avait au fond de lui, ce doute.
Oui.
Voilà. Mais on a pu se dire énormément de choses ce jour-là que je ne lui aurait sans doute jamais dit sans cette histoire.
Oui, et donc ça a été positif finalement pour lui. Vous pensez que c'est quelque chose de bénéfique ?
Ça prend du temps, c'est pas bénéfique tout de suite. Au départ, c'est un gouffre, c'est un coup de massue, beaucoup de douleur, je pense, beaucoup de réflexion. En revanche, je suis persuadée qu'à terme, ce sera libérateur pour nous trois, en vrai, même pour ma mère. Là, c'est encore un petit peu tôt pour eux. Moi, j'ai 2 ans d'avance sur eux parce que j'ai eu cette vérité il y a 2 ans. J'ai eu le temps de la digérer, de la réfléchir, de l'écrire, d'en faire quelque chose, de la transformer.
Oui.
Eux, il leur faudra un petit peu de temps encore.
Ils l'ont appris quand ? Enfin, votre père l'a appris quand ? Vous lui avez dit quand ?
À Pâques l'année dernière.
D'accord.
Ça fait moins d'un an.
Oui.
Mais voilà, mais entre nous, l'essentiel, c'est que voilà, c'est tout ce qu'on a pu se dire, et je sais qu'à terme, ce sera quelque chose de beau.
Oui, oui. Mais je crois qu'il vous remercie, non, de lui avoir appris.
Oui, il me remercie, il ne m'en veut pas. Je lui demande, est-ce que tu m'en veux de t'avoir dit ça, parce que j'étais quand même un petit peu dans la culpabilité. Et il a eu une réaction géniale. Il a eu de la colère, effectivement, mais pas contre moi. Et il m'a dit des choses superbes mais qui ne font que me conforter dans l'idée que mon père, c'est lui et pas un autre.
Oui.
Voilà, c'est un peu le sens de ce livre aussi.
Oui.
D'expliquer que le sens est une chose et c'est pas rien. On a besoin de savoir d'où on vient. On a besoin de connaître ses origines génétiques. C'est un besoin. C'est bien pour ça que tous les enfants issus de la PMA ou même les enfants adoptés, on l'a compris, ça, qu'il fallait plus leur mentir sur leurs origines et leur expliquer d'où ils viennent. C'est la même chose pour les enfants du secret dont je fais partie. C'est en ce sens que je dis qu'on devrait toujours savoir d'où l'on vient et que ce n'est pas une bonne idée de mentir aux enfants. Alors, de là en faire une loi, non, ce n'est pas tout à fait mon propos. Je ne suis pas militante.
Oui.
Voilà, je livre une histoire qui est une piste de réflexion. Non, je voudrais que les gens qui se retrouvent dans cette situation réfléchissent avant de se dire sur un malentendu, ça peut passer. Voilà, cet enfant n'est pas...
Votre mère avait une certitude, elle savait de façon certaine que vous n'étiez pas la fille.
Oui, elle le savait, sauf que c'est une autre époque. C'est vrai que voilà, dans les années 70, on n'avait pas évolué autant sur les sujets des racines, des origines.
Oui.
Et puis, il y avait le poids de la morale. Et puis,
Elle voulait garder son couple, j'imagine.
Elle a eu peur, effectivement, de perdre son mari. Donc, en ça, je ne la juge pas. Vraiment, je ne la juge pas parce que peut-être qu'à sa place, j'aurais fait pareil.
Oui.
Mais voilà, je parle pour moi à hauteur de ce que j'ai vécu et de la souffrance que ça engendre. Aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas une bonne idée de faire vivre ça à un enfant. On protège sa réputation, on protège son couple, on protège la virilité de son mari. Bon, il serait peut-être temps de se dire que tout ça n'est finalement pas si important au regard de ce qu'on va faire subir à l'enfant à qui l'on ne dit pas ses origines.
Oui, oui. Alors vous les connaissez, ses origines, et ça vous a libéré. On va l'expliquer dans quelques minutes, juste après Stromae sur Vivre FM.
La radio de toutes les différences.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Papa, où t'es? Stromae sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Une histoire de gènes, comment découvrir à l'âge adulte que le père qu'on a toujours connu génétiquement n'est pas son géniteur. Et c'est ce qui s'est produit avec Sophie Brugeil dans une histoire de gènes chez Flammarion. Elle nous le raconte, elle est notre invitée aujourd'hui d'en vivre, c'est épatant. Alors Sophie, une fois cette découverte, vous avez essayé d'en savoir un peu plus sur la famille génétique paternelle. Et là, ça a été compliqué et vous n'avez pas obtenu grand-chose.
Alors, en effet, j'ai pris contact avec la personne qui avait de l'ADN commun avec mon fils, puisqu'on peut communiquer sur le site du test ADN. Donc, je l'ai contacté en lui demandant qui il était. Enfin, c'est toujours compliqué de prendre contact avec quelqu'un comme ça de façon un peu abrupte quand il s'agit de ses origines. Mais il a été très charmant et il m'a répondu. Donc, j'ai compris qu'effectivement, la personne à laquelle je pensais... pour être mon père génétique, était bien cette personne-là. Enfin, je ne m'étais pas trompée, l'intuition était bonne. Il m'a donné quelques informations sur la famille. Moi, j'ai demandé si je pouvais obtenir quelques photos. Enfin, je ne cherchais pas grand-chose finalement, mais juste...
Savoir à quoi il ressemblait.
Ouais, exactement. Et il a demandé de son côté à son père... et il s'est pris un petit peu une fin de non-recevoir. Je pense que dans ces familles un peu dures, un peu, c'était une famille un peu particulière. Je pense que je ne suis pas la seule enfant illégitime dans le clan.
Vous avez peut-être des demi-sœurs et des demi-frères encore ?
Oui, je pense qu'il y en a que je ne connais pas, d'après ce que j'ai compris. Voilà, et puis je pense que ces gens ont eu très peur, parce qu'effectivement, quand vous déboulez comme ça en demandant... Enfin, j'y ai pensé après, c'est vrai qu'à partir du moment où on dit, voilà, je suis la fille de telle personne, de l'autre côté, peut-être qu'ils ne le savaient pas non plus, et ils peuvent avoir peur qu'on vienne pour de mauvaises raisons.
Pour un héritage,
exactement, etc. Chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé moi-même, mais peut-être qu'ils ont eu peur que je vienne réclamer quelque chose, alors que pas du tout. Je pense que ce n'est pas la première chose à laquelle on pense oui. Quand on apprend une pareille vérité.
Voilà, on veut savoir qui était son géniteur, à quoi il ressemblait, de quoi il est mort, enfin des choses comme ça.
Voilà.
Et vous avez toutes ces réponses ?
Je ne sais pas. Enfin, il a l'air d'être mort de vieillesse.
Oui.
Voilà, les frères et sœurs, j'en ai aucune idée. Mais je n'ai pas cherché plus loin, finalement. Le fait de savoir que c'était lui, puisque je l'ai connu quand j'étais petite, donc je sais quelle tête il a, enfin, quelle tête il avait, ça me suffit. En fait,
oui.
On n'a souvent pas besoin de plus. Juste savoir d'où on vient. Voilà, c'est lui, ok. J'ai pas tellement besoin d'en savoir plus aujourd'hui.
Oui, mais c'est très bien, ça, c'est positif. Finalement, il n'y a pas finalement de manque réel.
Non, c'est pour ça aussi que j'ai voulu partager cette histoire, parce qu'on a toujours l'impression que la vérité va être un cataclysme. C'en est un, mais un cataclysme n'est pas forcément meurtrier, destructeur. Au contraire, moi,
oui.
je crois qu'il y a des effondrements libérateurs et c'en est un. Voilà. Alors après, chaque histoire est différente. Je n'ai pas la prétention de donner des conseils ni de faire la morale à qui que ce soit. Chaque histoire est différente. Mais en ce qui me concerne, ça a été positif. Donc il ne faut pas avoir peur de la vérité.
Voilà. Et c'est vraiment un message positif dans une histoire de jeunes. Vous avez découvert la vérité. Elle a été partagée à votre père. Tout le monde est au courant aujourd'hui, vos enfants aussi. Et vous ne regrettez absolument pas. Vous en êtes contente.
Oui, je suis contente parce que chaque chose est à sa place. Les relations sont beaucoup plus vraies. Moi, je suis enfin devenue adulte. Il était temps. Voilà, parce que je me sentais très la petite fille de mes parents pendant des années. C'était très compliqué. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Ça peut sembler fou, mais le fait de me sentir entière et d'avoir recollé les morceaux...
Alors que vous ne saviez pas avant qu'il y avait des morceaux à recoller ?
Exactement, mais je pense qu'on le sait toujours. C'est ça le propos de ce livre. J'ai voulu vous montrer comment le secret suinte. Il y a un psychiatre qui s'appelle Serge Tisseron qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et je l'ai lu après avoir écrit mon livre. Et je me suis rendu compte que j'avais utilisé le mot suinté, que le secret suintait comme une fuite derrière une plainte. Et il parle, lui, du suintement du secret. Et j'ai trouvé ça fou parce que c'est le mot juste. C'est qu'un secret, même quand on ne le connaît pas, à l'intérieur de soi, on le connaît.
Oui. Et alors, ce livre, il est sorti et vos parents l'ont lu, votre père et votre mère.
Oui, je leur ai fait lire en amont, bien sûr. Je ne leur ai pas fait lire à la sortie, je leur ai fait lire en amont pour qu'ils aient le temps aussi de digérer, de voir, de comprendre pourquoi je l'avais écrit. Et bien sûr que ce n'est pas simple pour eux, je ne vais pas mentir. Et en même temps, je crois que ça leur a permis, eux, de dialoguer, de se parler, de retrouver un équilibre. Et je suis convaincue que les dernières années qu'on passera ensemble seront plus belles que toutes celles qu'on a passées avant.
Oui, vous nous expliquiez qu'avec votre père, il n'y avait pas une très très grande communication et ça s'est amélioré.
Je pense qu'on s'est toujours aimé très fort, mais qu'on ne se l'est jamais dit. Et puis qu'il y avait une sorte de distance, c'est ce que j'explique dans le livre, avec mes parents, on vit avec des gestes barrières depuis bien longtemps avant le Covid. Une sorte de pudeur, quelque chose de non dit finalement, comme si quelque chose n'était pas dit, aujourd'hui c'est dit.
Oui.
Et c'est mieux.
C'est mieux, ouais. Donc, vous conseillez à une personne qui a peur de faire ce genre de révélation, de le faire ?
Tout dépend de ce qu'on ressent. C'est difficile parce que, encore une fois, chaque histoire est différente. Faire ou ne pas faire ces tests ADN, c'est très personnel. Il y a des gens qui disent « Oh là là, moi, je ne voudrais surtout pas les faire, j'aurais trop peur de découvrir quelque chose. » Quelqu'un qui est heureux comme ça, qui n'a pas de problème, qui n'a pas d'angoisse particulière, qui vit très bien, n'a peut-être pas intérêt à faire ce test, après tout. Maintenant, je pense que quand on a le doute et qu'on se pose la question, c'est peut-être qu'on a envie d'avoir des réponses. Alors pour ou contre ces tests ADN, j'ai pas envie de me prononcer de manière absolue.
Sachant que ces tests en France sont illégaux, vous avez été dans l'illégalité en passant par un site américain, je crois,
ouais.
Mais comme beaucoup de Français, justement.
C'est ça, je trouve ça assez fou. C'est illégal, mais tout le monde en fait. Donc il y a quelque chose de pas clair. Je pense que c'est illégal pour des raisons éthiques que je comprends. J'entends les discours des gens qui parlent de protéger les données. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur, mais je peux comprendre qu'on ait cette peur-là. Après, interdire quelque chose que finalement tout le monde fait, je sais pas. J'ai pas de conseils à donner là-dessus. J'ai écrit ce livre pour. Si je militais pour quelque chose, c'est pour la vérité, quelle qu'elle soit. Peu importe la manière dont on la découvre. Après, c'est chacun en son âme et conscience.
Oui, oui. Et alors vous, ça vous a libéré. Votre père lui-même, est-ce que vous savez si ça l'a fait évoluer aussi comment il le vit ? Est-ce que vous le savez ?
On en a parlé entre nous. On a mis des mots sur...
Aujourd'hui, ça fait presque un an qu'il a appris la vérité.
Ouais.
Donc il a eu le temps de digérer et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Il en est qu'il n'a qu'une fille, c'est moi, je n'ai qu'un père, c'est lui.
Oui.
Et que ça nous va bien comme ça.
Ouais.
Et que l'histoire du sang... je comprends que ce soit... C'est pas rien, on va pas nier le fait de transmettre par le sang. Bon, c'est quelque chose d'humain, d'ancien, d'animal. Mais finalement... Finalement, c'est pas le plus important.
Oui.
C'est important, mais je pense que l'amour est plus important que le sang.
Oui, oui, effectivement, c'est sûr. Et de l'amour, vous en avez eu, puisque c'est votre père. En fait, est-ce que vous, dans votre tête, vous vous dites j'ai deux pères ou j'en ai un et j'ai un géniteur ? Comment ça se
Pas du tout.
Ça se positionne.
Je me dis que j'ai qu'un père. Je me dis j'ai un père et. Je me dis pas tous les jours j'ai un géniteur. Je me le suis beaucoup dit le temps de livrer cette histoire parce que forcément je me suis retrouvée un peu entre deux. Ma façon à moi de gérer cette info a été de l'écrire et justement de remettre les choses en place. Mais il en ressort que je n'ai qu'un père parce que un père j'ai retourné le truc dans tous les sens. Définitivement un père c'est celui qui aime et qui éduque.
Oui. Oui, c'est vrai, tout à fait. Sophie Brugeil, ce sera le mot de la fin, une histoire de gêne chez Flammarion. C'est votre histoire que vous racontez et qu'on vous encourage à découvrir. Je vous remercie d'être venue nous en parler sur l'antenne de Vivre FM.
Merci beaucoup.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.